RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Notre invité est Luc Ferry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale et vous venez de publier le dictionnaire amoureux de la philosophie, un livre consistant, 1500 pages. Alors avec vous, on aurait pu tranquillement parler de philosophie, mais ce serait un peu hors sol étant donné l'actualité. Cependant, on peut trouver... on va dire des similitudes, notamment à la lettre P. Vous avez choisi passion démocratique, passion et intérêt, passion triste. Vous écrivez page 1200, des manifestants qui cassent sans vergogne les biens publics, des citoyens qui fuient l'impôt, des maires qui ne veulent plus appliquer la loi, comme si les décisions du pouvoir législatif pouvaient désormais se choisir à la carte. Bref, c'est la République, la res publica, qui s'ouvre au vent mauvais. Voilà ce que vous écriviez. Vous l'écriviez il y a quelques mois, j'imagine, puisque votre livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, elle est criante d'actualité, cette phrase. Le vent mauvais, il est en train de souffler. Comment en est-on arrivé à cette situation qui va jusqu'à sidérer l'exécutif, on l'a vu?
Alors, ce qui est original dans le mouvement en question, si on laisse de côté le phénomène des casseurs, qui est un peu différent du, et même très différent du mouvement général, quand vous regardez l'histoire de la vie politique européenne et française, il y a toujours eu des partis pour soutenir ce que le regretté Georges Marchais appelait le grand capital. Mmh. Ils ont l'économie, la droite défendait plutôt l'économie, et la gauche représentait plutôt le prolétariat. Quand j'étais gamin en 68, la gauche était dans le mouvement révolutionnaire, elle représentait ou elle prétendait représenter le prolétariat. Il n'y a jamais eu de mouvement politique qui représentait la majorité silencieuse, la classe moyenne. Or, c'est elle qui est aujourd'hui dans la rue très largement. Encore une fois, je laisse de côté le phénomène des casseurs, qui est marginal, même s'il est très visible. Et donc, c'est la classe moyenne qui est aujourd'hui dans la rue. Elle n'a pas de représentation politique, et ça explique quelque chose qui est totalement nouveau. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est que 84% des Français défendent le mouvement. Il y a toujours eu des mouvements sociaux qui étaient clivants. C'était toujours du 40-60 ou du 50-50 ou du 30-70. Mmh. 84%, je n'ai jamais vu ça.
Vous voulez dire qu'il y a toujours un gilet jaune qui sommeille un peu en chacun, même si, à excepté les hyper riches. Quoi qu'ils ne sont pas contents, quand ils payent trop d'impôts, souvent ils vont à l'étranger.
De toute façon, le mouvement va s'arrêter. Un jour ou l'autre, tout a une fin dans l'existence, y compris les mouvements sociaux. Ce qui va faire que le mouvement va s'arrêter, c'est qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement va comprendre qu'il faut annoncer clairement, non pas un moratoire, mais la suppression pure et simple de ces taxes qui sont, pardon de le dire, à mon avis, tout à fait absurdes, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan de la réduction de la dette et de la fiscalité. Ce sont des taxes qui n'ont aucun sens. Mmh. Donc, il y a un moment où il ne faudra pas dire un moratoire. Vous savez ce que ça veut dire en latin? C'est ma rubrique amicuistre bonjour. Moratorius, ça veut dire retarder. C'est ce qui retarde en latin. Bah, si vous dites aux gens, attendez, calmez-vous, on va suspendre les choses pendant 3 mois, mais après ça vous retombera dessus, ça ne calme pas le jeu.
C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, les gilets jaunes.
Bah, c'est ce que dit tout le monde, honnêtement, tous les gens raisonnent. Et donc je pense que le Premier ministre ferait mieux de dire carrément, écoutez, voilà, une taxe n'est pas une grande réforme. Pour calmer le jeu, je vous ai entendu, on supprime cette taxe, on va discuter sérieusement sur la dette, sur la fiscalité, sur l'écologie. Mais mélanger les trois était une très mauvaise idée.
Dans les lignes qui précèdent l'extrait que Roselyne a lu, vous dites, lorsque l'État cesse d'être crédible, lorsqu'il n'est ni aimé, ni même détesté, mais regardé comme insipide, incolore et inodore, c'est alors la tentation de la désobéissance civile qui s'instaure. Oui, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette situation?
Oui, je pense. Je le dis depuis un an et demi, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est pas une question personnelle. Ce garçon a des talents, c'est pas le problème. Ce que je dis simplement, c'est que si on veut comprendre ce qui se passe politiquement, il faut voir que la France est divisée. C'est comme les doigts de la main. Il y a 5 courants politiques, extrême droite, extrême gauche, ce qui reste des Républicains, ce qui reste du Parti Socialiste et le centre, disons, libéral pro-européen incarné par Macron. Donc aucun président ne peut représenter aujourd'hui plus d'en gros 20% de l'électorat et encore quand tout va bien. Par conséquent, on est en très grande difficulté quand on a échangé un débat droite-gauche dont on pouvait penser ce qu'on veut, mais moi je pense qu'il est essentiel à toutes les démocraties. Mmh. La démocratie, c'est la possibilité de l'alternance. Mmh. On a échangé un débat droite-gauche contre un débat centre-extrême. Or, je dis qu'on se prépare à un scénario italien. À chaque fois qu'un centre, Matteo Renzi oui. était le Macron local, à chaque fois qu'un centre gentillet, disons pro-européen, gentil, sympathique, se trouve face à des extrêmes durs, les extrêmes gagnent. Et alors, c'est ce qui se passe
oui.
en ce moment.
Oui, sauf qu'ils ont... Ils n'ont pas le même mode de scrutin. Nous, oui. c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on entend certains gilets jaunes, sans doute agités par des mouvements politiques, et on voit lesquels, demander de la proportionnelle.
Alors, mouvements politiques, on ne voit pas toujours lesquels, parce qu'il y a évidemment Marine Le Pen qui demande de la proportionnelle, mais il y a aussi François Bayrou. Et donc, j'en ai encore reparlé avec lui ce matin, il m'a dit, mais tu ne comprends pas, il faut la proportionnelle. Bon, c'est un débat qu'on a entre nous depuis des années. Bayrou est un ami, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour lui, ce n'est pas le sujet. Mais il n'y a pas que le Front National qui demande la proportionnelle. Moi, je suis très contre.
Mais parce que vous me parliez du scénario à l'italien, à l'italienne.
Le scénario à l'italienne, je pense que si. Alors, je le dis comme ça, j'ai pas de preuves, mais je connais la vie politique quand même depuis longtemps, je vois ça assez clairement. Je pense que si un deuxième tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui entre Marine Le Pen et Macron, c'est Marine Le Pen qui gagnerait. Voilà. Parce que l'essentiel des voix de la France insoumise et de l'extrême gauche irait vers elle plutôt que vers lui. Voilà. Et donc je pense que c'est ça qui se profile à l'horizon et que c'est très grave. Voilà pourquoi je trouve que le Premier ministre devrait arrêter la plaisanterie. Il devrait dire, écoutez, j'ai entendu, j'ai compris. Quand il a mis déjà la limitation de vitesse à 80 km/h, il s'est pas rendu compte que la bagnole, comme disait Pompidou,
c'est quelque chose.
Et dans les provinces, vous voyez, moi quand j'étais jeune prof, j'étais prof à Montreuil-sur-Mer. J'arrivais à la gare d'Arras, j'avais une vieille R10 pourrie, une vieille Renault, et j'allais... Il y avait 90 km pour aller de Arras à Montreuil, où j'allais faire cours. Et ça tous les jours. Bon, si on m'avait dit, je gagnais l'équivalent de 1 300 € par mois d'aujourd'hui, si on m'avait dit, on va te rajouter 100 € par mois d'essence, j'aurais pris un gilet jaune ou l'équivalent de l'époque. Ouais.
Je vais essayer une transition intelligente.
fait ce qu'on peut. On essaye d'être niveau.
En faisant référence à votre livre, puisqu'au fond, vous évoquez dans votre livre la faiblesse de l'État, ce que ça peut entraîner. Et on peut se demander si au fond, entre faiblesse de l'État et autorité, exercice de l'autorité, il n'y a pas un rapport. Et vous parlez de l'autorité en distinguant trois, l'autorité traditionnelle, l'autorité légale et l'autorité charismatique qui s'attache à des personnes, et dites-vous, dans certaines circonstances.
On n'a aucune des trois aujourd'hui.
Voilà. Vous dites à ce propos de l'autorité charismatique, la disparition progressive des chefs charismatiques au profit de présidents normaux, y a-t-il une allusion
à François Hollande,
c'est pas méchant. Et l'un des traits les plus marquants des sociétés démocratiques en période de paix. Donc pour vous, en fait, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des chefs charismatiques en période de paix. C'est lié à la guerre.
En période très démocratique. Ouais. Je pense que là, si vous voulez, quand le général de Gaulle est mort, je ne sais pas si vous vous souvenez, la moitié de la presse, y compris Libération, si mes souvenirs sont bons, a titré « La France est veuve ». Ouais. De quel chef d'État aujourd'hui, je souhaite la mort de personne, hein, soyons clairs, mais imaginons que François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, j'ai un peu honte d'évoquer des scénarios tragique, mais c'est pas du tout que je le souhaite, c'est pas ça. Mais si un président de la République disparaissait aujourd'hui, personne ne dirait la France est veuve. Enfin, c'est ridicule. Tandis que le général incarnait. On peut ne pas être gaulliste, mais voilà.
Alors, on avait beaucoup dit de Obama, par exemple, que c'était un personnage, un président extrêmement charismatique. C'était surfait, c'était.
En tout cas, le résultat, ça a été Trump. Et donc, 56% de l'électorat de Trump est féminin. Ouais. Ça mérite réflexion. Ça veut dire que ce politiquement correct, et notamment le féminisme américain, a fait le lit paradoxalement de Trump. Et donc, ce qu'incarnait Obama, je suis désolé, c'était un homme sûrement très sympathique, mais ça n'a pas été un grand président.
Pour revenir sur ce que disait un peu Frédéric, vous avez employé le mot d'ailleurs tragique. On a souvent entendu Emmanuel Macron citer le retour du tragique, sans doute que lié à Domnach, qu'il avait dû lire. Le philosophe, est-ce que ce tragique-là, il pourrait y participer à un moment donné ?
Écoutez, je ne sais pas ce que veut dire le mot tragique dans la mythologie grecque, qui est une de mes passions. Le tragique, c'est comme dans l'Antigone de Sophocle. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le dictionnaire. Ouais. C'est un conflit qui oppose non pas des bons et des méchants, mais deux légitimités équivalentes. Dans l'Antigone de Sophocle, Créon, le roi de Thèbes, est un type bien. Il a un neveu qui s'appelle Polynice qui a trahi la cité et dit on l'enterre pas, c'est la loi. Et Antigone dit mais Polynice, c'est mon frère et elle défend contre la loi de la cité, la loi du cœur, de la famille et des dieux. Les deux sont des gens bien.
Et elle désobéit d'ailleurs.
Voilà, et elle désobéit à Créon et elle va en mourir.
Ouais.
Et
vous les deux sont des gens bien. Il n'y a pas de sortie de crise possible en fait.
Aujourd'hui, la seule sortie de crise, pour moi, il y a deux moyens. Si je suis pas du tout macronien.
Non, mais dans le passage sur
Antigone, il n'y a pas de sortie de crise. Ouais, oui, parce que le vrai tragique,
savoir si le parallèle
disons prolongé. Disons le vrai tragique, ce qu'il a de difficile, c'est que c'est beaucoup plus facile de résoudre un conflit quand il y a des bons et des méchants. Alors on prend le bon côté, que quand les deux ont raison. Et ce qui va caractériser le monde qui vient, ce sont en effet des conflits tragiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison de défendre la transition énergétique, et on peut avoir raison de dire, mais je veux boucler mes fins de mois. On peut avoir raison, quand on est un jeune qui va travailler chez Uber, de dire Uber me rend service, me donne du boulot. Et on peut avoir raison, quand on est taxi, de dire, mais ma licence a diminué de moitié. Et donc, quand on est hôtelier, on peut avoir raison de dire, je veux pas d'Airbnb. Et quand on est un particulier qui met une chambre, on peut dire, mais j'ai besoin de laissez-nous nous organiser entre particuliers. On va avoir des conflits tragiques qui seront de plus en plus nombreux au sens grec du terme. Je suis pas sûr que ce soit.
On reste chez les Grecs et les Romains, enfin.
Avec joie.
H, hubris. Oui. C'est la démesure, l'orgueil, vous écrivez, cette arrogance spécifiquement humaine qui menace en permanence l'ordre du monde instauré et garanti par Zeus après sa victoire sur les titans. Alors Zeus, c'est Jupiter chez les Grecs. Emmanuel Macron, donc cette arrogance qui lui est reprochée, donc un peu comme les dieux, quoi.
J'entends deux choses. J'entends mon ami Bayrou me dire, je l'écoute, mais pas du tout. Il est pas comme ça. Il me dit, il est comme nous. C'est quelqu'un de simple et qui comprend les gens. Et puis j'entends Gérard Collomb, qui est quelqu'un pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, dire en partant, vous vous souvenez, il a péché par hubris. Justement, c'est le terme qu'a employé Gérard Collomb, dont je rappelle qu'il est un agrégé de lettres classiques, qui connaît son grec et son latin, donc il n'a pas dit ça au hasard. Très intéressant. Et en effet, le sentiment, en tout cas, peut-être à tort, je ne connais pas assez bien Macron personnellement pour le dire, mais peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, le sentiment que les Français ont, c'est que cet homme est arrogant et qu'il n'a jamais vu, en gros, un ouvrier de sa vie. Mmh. Quand il dit « il suffit de traverser la rue pour trouver un travail », je suis désolé, moi j'ai trois filles, j'en ai une qui cherche du travail. C'est pas vrai, il suffit pas de traverser la rue pour trouver un travail, c'est pas vrai. Et puis c'est tellement méprisant. Mon Dieu, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Il faut ne rien connaître à la vie humaine, réelle, pour dire des bêtises pareilles, pardon de le dire. Et ça, vraiment, ça fait très arrogant. Mmh. Ou quand on dit « on dépense un pognon de dingue », mais pitié qu'il a de parler comme ça. Donc je pense que c'est pas exprès, je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais, de méchant, mais il donne une image de banquier de chez Rothschild, quoi. Il y a rien à faire. Je suis pas de gauche, hein.
Alors, après le tragique, il y a aussi ce que, d'ailleurs, Emmanuel Macron aime bien évoquer, les passions tristes. Vous avez une entrée dans votre dictionnaire sur le déclin, la décadence et la nostalgie. Vous y déplorez l'atmosphère de tout fout le camp qui prévaut, la passion du pessimisme et des idéologies du déclin qui devient, dites-vous, la maladie du siècle.
Et notamment chez les intellectuels français, les meilleurs, qui sont d'ailleurs des amis, que ce soit Régis Debray, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, on a affaire à des gens qui pensent que l'Europe est foutue, que l'américanisation du monde est en marche et que, en gros, si je caricature un peu, le salut viendrait du retour à la Troisième République, aux Blues Gris et aux Plumes Sergent Major. On est un peu dans un peu chez Chevènement. Enfin bon, et je crois exactement l'inverse. D'abord, je pense que la Troisième République était une horreur. D'abord, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et sans être un féministe fanatique, je ne pourrais pas vivre dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de vote, rien que ça. Je pense que l'école était une abomination. J'étais ministre de l'éducation et je connais l'histoire de l'école. Et donc, je pense surtout qu'on va rentrer dans un monde qui potentiellement allemand est infiniment meilleur que celui des années 30 ou même des années 50.
C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit toujours et que les pessimistes voient toujours tout ce qui a disparu,
mais jamais ce qui apparaît.
Mais voilà. Et vous avez cette formule aussi amusante que je résume, et vous dites on a toujours l'air plus profond et plus intelligent en se proclamant pessimiste comme
optimiste. Bien sûr, sinon on a l'air d'un imbécile heureux. Le type qui dit je suis optimiste, il a l'air d'un con, pour dire les choses franchement. Et donc c'est vrai. Mais regardez les chiffres, que ce soit la liberté des femmes, je parle de l'Europe, évidemment, que ce soit la liberté des homosexuels, que ce soit le niveau de vie, l'espérance de vie. L'espérance de vie en 1900, elle est de 45 ans. Elle est de 80 ans aujourd'hui. Donc tout ça, le SMIC de 1975 n'est pas au niveau du RSA d'aujourd'hui. Et donc tout ça a progressé formidablement, y compris en termes de réduction de la violence, de l'espérance de vie, du niveau de vie, de la liberté. Et donc voir ce décalage, c'est très intéressant. Pourquoi ? Pourquoi un tel décalage ? Pourquoi une France aussi pessimiste ? Très intéressant.
On peut pas vous laisser partir, vous, ancien ministre de l'Éducation, agi comme jeunesse, donc des lycéens qui commencent à se mêler au mouvement. Alors bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, les jeunes dans la rue, c'est toujours un peu dangereux ?
C'est ce qu'il y a toujours pour un gouvernement de plus inquiétant. Vous connaissez l'image bête du dentifrice. C'est facile de le faire sortir du tube, le faire rentrer est délicat. Et c'est l'image qu'on utilise toujours dans le ministère pour les lycéens. Il y a un point sur lequel ils ont raison, qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes. C'est cet absurde service universel d'un mois. On peut pas faire plus bête. J'ai travaillé 2 ans avec l'amiral Béraud pour mettre en place le service civique. C'est moi qui l'ai fait en France. Et donc, grâce à Sarkozy, je dois dire, qui a parfaitement compris l'enjeu, il faut monter en puissance ce service civique, qui est un truc formidable, mais pas du tout. Un service universel d'un mois, ça va être une espèce de colonie de vacances. Si c'est pour recadrer, comme on dit, je vais parler brutalement, mais c'est de ça qu'il s'agit, si c'est pour recadrer les mômes des banlieues, ils n'iront pas. C'est ridicule. Et les autres, ça va les emmerder absolument pour rien. Et ça va coûter 7 milliards d'euros par an. On ne peut pas faire plus bête que ce projet. On dit que ce sera un creuset républicain, mais pas du tout. Ce seront des petits cours gentillets de valeurs républicaines à des enfants qui n'en ont rien à faire. Tout ça, alors qu'il y a déjà des cours d'instruction civique à l'école. Tout ça n'a aucun sens. Donc là-dessus, je ne peux que les encourager à sortir dans la rue. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais je ne peux qu'être d'accord avec eux. Il ne faut peut-être pas sortir dans la rue. Je ne vais pas dire ça comme ancien ministre de l'Éducation, mais en tout cas, je ne peux qu'être d'accord avec eux. Il faut retirer ce projet qui est absurde.
Voilà, avant de se quitter, une dernière question, mais très courte. Révolte ou révolution ? La différence.
Sire, c'est une révolution. Non, c'est une révolte. Voilà, c'est une
jacquerie. La révolte, c'est
individuel. J'inverse la phrase célèbre. C'est une révolte. C'est une révolte qui n'a ni traduction politique, ni traduction syndicale, tout le monde l'a dit, parce qu'il s'agit de classes moyennes qui ne sont pas représentées par un mouvement politique aujourd'hui. Alors, j'attendais de mon ami Bayrou qu'il incarne justement cette représentation des classes moyennes.
Puisqu'il nous reste 40 secondes, une dernière question. Encore
à chaque fois, on dit une dernière question. Non, parce qu'il est court en plus.
Vous êtes passionné de voitures.
Oui.
J'ai pas vu d'entrée concernant l'automobile.
Il y a des rentrées. Oui, bien sûr. Bon. Parce que il y a une révolution de l'automobile avec la voiture autopilotée. Ouais. Allez sur Facebook. J'ai mis une petite vidéo. J'ai essayé la voiture autopilotée de Valeo. Elle est absolument géniale. Ouais. Là aussi, très grand progrès. Il y aura plus un mort sur les routes dans 20 ans, dans 30 ans.
Merci Luc Ferry. C'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain.
Merci. Merci beaucoup. Absolument. Et donc dictionnaire amoureux de la philosophie, Luc Ferry, ça pèse son poids.
Comme je dis, bêtement.